Bon matin, Nouvelle Vie. Vous allez bien?
Oui.
Oui, si ça va pas, vous êtes au bon endroit, ça va aller mieux. C'est une joie de pouvoir apporter le dernier message dans la série classique, la série qu'on a eue tout cet été. Combien ont été bénis par la série classique cet été? Amen? Amen. Des messages excellents. Ça a été un été qui a été riche en messages dans cette série. Et si vous en avez manqué à cause des vacances, allez sur le site web de l'Église. Et puis, tous les messages, ils sont là, ils sont en ligne. Alors, vous pourrez reprendre le temps perdu lorsque vous étiez en vacances. On en profite pour saluer les gens qui sont sur Facebook Live ou qui sont en ligne. Alors, on vous dit bonjour, on vous souhaite la bienvenue. Est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent d'un peu partout dans la francophonie? C'est un privilège d'être avec vous. J'aimerais regarder avec vous dans cette série classique, pour terminer la série, un personnage et une histoire tragique et émouvante. Et en même temps, non seulement de regarder cette histoire-là, puis d'apprendre de cette histoire-là, mais aller découvrir peut-être des principes qui peuvent s'appliquer à nos vies, à chacun de nous. Et ce personnage s'appelle Méphibosheth. Et alors, je ne sais pas s'il y a des sœurs qui sont enceintes présentement, puis qui se demandent un nom pour un garçon... Méphibosheth. OK? Et comme ça, dans 20 ans, je vais avoir un nouveau client en thérapie parce que c'est sûr qu'avec un nom comme ça, son enfance va être difficile. Alors moi, je suis prêt à assurer ma retraite. Mais c'est une histoire qu'on pourrait résumer par « Pourquoi moi? Pourquoi moi? » C'est une histoire remplie de « C'est pas juste, c'est pas de ma faute, puis c'est moi qui paye le prix. » Peut-être que tu peux t'identifier à ce genre de discours-là, à ce genre de réflexion-là. Des événements, des situations dans ta vie où tu dis « Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est pas de ma faute. C'est pas juste. Mais c'est moi qui paye le prix, c'est moi qui subis les conséquences de ces événements-là. » L'histoire que je veux regarder, c'est celle de Méphibosheth. Maintenant, laisse-moi te présenter Méphibosheth. Il est le petit-fils du roi Saül, le fils de Jonathan. Il est donc de descendance royale, c'est un prince Méphibosheth. Et il est le descendant direct dans la lignée royale pour devenir le roi après son père. Donc, le roi Saül est supposé transmettre son règne à son fils Jonathan, et Jonathan transmet à son fils Méphibosheth. Il est de la descendance royale. Mais quand son grand-père Saül, qui est un homme narcissique pervers, décide d'aller en guerre contre les Philistins, une guerre qu'il va perdre, et que non seulement est-ce qu'il va perdre, mais pendant le conflit, son fils Jonathan va être tué, et que le roi Saül, au lieu de faire face aux conséquences, va s'enlever la vie, il va se suicider, Méphibosheth se retrouve complètement seul puis en danger de mort. Voici pourquoi. Parce que la coutume à l'époque, c'est lorsqu'un nouveau roi prend le règne, il va mettre à mort toute la famille du roi précédent pour s'assurer qu'il n'y aura pas de révolte contre lui. Donc, Méphibosheth, le jour où son grand-père se suicide et que son père meurt, il est en danger de mort maintenant. Il est complètement abandonné à lui-même. Il est en danger. Et le pire, c'est qu'il n'a que 5 ans. La journée que son père meurt et que son grand-père se suicide, Méphibosheth, il a 5 ans. Et là, sa vie est en danger. Et on peut quasiment entendre le petit garçon de 5 ans dire, « Mais pourquoi, pourquoi moi? J'ai juste 5 ans, là. J'ai pas choisi ma famille. » Mais à cause des erreurs de mon grand-père, j'ai perdu mon père, et là, ma vie est en danger. C'est pas juste. C'est pas de ma faute. Et ceci explique, dans 2 Samuel 4:4, la scène qui va prendre place. Jonathan, fils de Saül, avait eu un fils infirme des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Dans la précipitation, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Dans le choc et dans la crise de la mort du roi et du père de Méphibosheth, la nourrice de Méphibosheth, elle sait très bien la coutume, elle sait que le petit est en danger, et pour bien faire, elle veut partir en fuite pour protéger le petit. Mais en partant tellement rapidement, elle l'échappe. Elle échappe le petit garçon de telle sorte que ses pieds et ses chevilles vont être brisés. Ce qui va l'amener à être un handicapé pour le reste de ses jours. Il va être boiteux pour le reste de ses jours. Handicapé des deux pieds. Et là, tu peux quasiment dire, mais pourquoi moi? Non seulement est-ce que mon père, mon grand-père, là, je suis en danger de mort, mais là, je suis handicapé en plus. Parce que la nourrice m'a échappé. C'est pas juste. C'est pas de ma faute. Et là, pour le protéger, on l'amène dans une région éloignée, une région complètement inconnue. Et la région s'appelle Lodebar. En québécois, de l'autre bord. Petit village dans le fond du Québec. Ils l'ont emmené de l'autre bord. On l'amène de l'autre bord. Le mot Lodebar veut dire le lieu sans pain. Certains l'ont traduit par une prison sans promesse, que le mot veut dire. C'est une région qui est désertique, c'est une région qui est dans la désolation, c'est une région qui est dans la famine. Et tu dis, pourquoi moi? J'étais dans les palais royaux, là. J'étais dans le palais royal, et là, je me retrouve dans un lieu de désolation. C'est pas juste, c'est pas de ma faute. Et toute sa vie, il va être dans la peur constante, la peur qu'on le trouve et qu'on le tue, parce qu'il a descendance royale. Il est dans la peur de mourir toute sa vie. Pourquoi moi? Pourquoi je ne pouvais pas avoir une vie normale comme tout le monde? C'est pas juste. C'est pas de ma faute. J'ai pas choisi la famille dans laquelle je suis venu au monde. J'ai pas choisi l'absence de mon père, la perte de mon père. J'ai pas choisi d'être échappé, puis là aujourd'hui je suis handicapé à cause de ça. J'ai pas choisi le lieu où j'habite. Et j'ai pas choisi de vivre dans la peur constante qu'on va me trouver et qu'on va me tuer. C'est pas juste, c'est pas de ma faute, mais c'est moi qui paye le prix. Et un jour, il y a un serviteur qui arrive à la porte de Méphibosheth et qui frappe. Méphibosheth? Oui. Le roi veut te voir. Et là, le serviteur Tiba qui dit à Méphibosheth, Méphibosheth, le roi veut te voir. Et là, Méphibosheth, il se dit, ah, ça y est, c'est fini. OK, c'est ça. Le jour que j'ai eu tellement peur qu'il était pour arriver, ben c'est aujourd'hui, le roi me cherche. C'est la fin, c'est fini. Mais laisse-moi te montrer un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de l'histoire à propos justement du roi David qui est à la recherche de Méphibosheth. Dans 2 Samuel 9, les versets 1 à 5, on lit ceci, les versets vont apparaître sur l'écran. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'use de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? » Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit, « Es-tu Tiba? » Il répondit, « Je le suis, moi ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que j'use envers lui de la bienveillance de Dieu? » Et Tiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Et le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tiba répondit au roi, « Il est en maison de Makir, fils d'Amniel, à Lodebar. » Et le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils de Amniel, à Lodebar. Alors que le calme est revenu dans le royaume, pendant des années, il y a eu des guerres avec les clans ennemis, et David réussit sous son règne à ramener la paix dans le pays. C'est un temps de calme. Et là, il se souvient d'une promesse qu'il a faite. Qu'il avait fait une promesse à son ami Jonathan. Il avait fait une promesse à Jonathan, qui était son ami, qui était le fils de Saül, qui est le père de Méphibosheth. Et la promesse a été fait parce que Jonathan avait littéralement sauvé la vie de David. Quand le père de Jonathan était rendu complètement dans des états de folie et qu'il voulait tuer David, c'est Jonathan qui a dit à David, « Sauve-toi, mon père veut te tuer. » Et il a sauvé la vie de David. Et la raison pourquoi Jonathan a fait ça, c'est que Jonathan avait réalisé dans son cœur, il avait réalisé dans la présence de Dieu, que bien qu'humainement parlant, c'est lui qui est supposé devenir le prochain roi, Dieu avait choisi David pour être le prochain roi et non pas lui. Et on voit l'humilité, le cœur de Jonathan dans ça. Il avait accepté ce que Dieu avait décidé, que c'est David qui était pour être le prochain roi. Et pour cela, il sauve la vie de David. Et là, David lui va lui faire la promesse. Et la promesse a été, contrairement à la coutume, je te promets que quand je deviendrai roi, je ne tuerai pas ta famille. Au contraire, je vais prendre soin de ta famille. Je vais les faire comme ils étaient les miens. Je vais prendre soin de ta famille. Donc, David demande, est-ce qu'il reste encore un descendant de Jonathan dans le royaume? Il en reste encore un. Et il y a un serviteur, Tiba, qui dit au roi, oui, il y en a un, mais il est handicapé. Il est perclus des pieds, c'est un boiteux. Ça ne fitera pas vraiment dans le décor du palais royal, là, tu comprends? Hein? Il m'a arrivé tout croche, puis dans le palais royal, tout est beau. Tout est... En plus, il est loin. Il est vraiment loin, là, tu sais? Il est de l'autre bord. David, il n'est pas dangereux, là, il est handicapé. Il ferait bon à la personne, là, gars, vaut pas la peine, là, ça vaut pas la peine d'aller se déplacer, puis de, gars, il est loin. Mais David clarifie son intention. Il dit, je veux pas le tuer. Je veux user envers lui de la bienveillance de Dieu. Et tu sais ce qui est beau dans le mot bienveillance? Le mot hébreu peut être traduit par le mot grâce. David est en train de dire, je veux déverser la grâce de Dieu sur lui. Va me le chercher parce que je veux déverser la grâce de Dieu sur lui. Arrive le boiteux au palais. Verset 6 à 8. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba face contre terre et se prosterna. Et David dit, Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. Et David lui dit, sois sans crainte. Pour ce, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saül et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi? Mephibosheth, il arrive puis il se prosterne devant le roi. Et là, il entend, là, il a la tête basse, puis, entend, puis le roi dit, « Mephibosheth! » Il dit, « Oui, oui, c'est moi, c'est ça, c'est fini. C'est ici que ça arrête. » Et là, il voit le film de sa vie qui passe. Ben, c'est fini, le roi, il a dit, « Oui, c'est moi. » Mais au lieu de le tuer, le roi lui offre la grâce. Est-ce que tu as déjà entendu ton nom être appelé, puis te dire, « Oh, oh, ça y est. » Je me souviens d'une soirée, quand j'étais petit, j'étais chez une de nos tantes, puis toute la famille était dans la cuisine, et puis tout le monde parlait, puis les adultes sont tous là. Puis j'ai un cousin qui est à peu près mon âge. Puis il s'appelle Luc, mais à l'époque, on l'appelait T-Luc. Et on a 10 ans, puis T-Luc puis moi, là, on trouve la soirée pas mal longue, OK? Les adultes parlent, blablabla. T-Luc, il me regarde, il dit, on va-tu jouer au hockey? Yes, mon T-Luc, on s'en va jouer au hockey. On sort dans la cour. Tiluc, il dit, je m'en vais d'un but. Ah ouais, mon Tiluc, vas-y d'un but. Moi, je vais prendre le hockey, puis on a du fun. Et là, on commence à jouer. Sauf que là où on joue, c'est pas une plaque de ciment, c'est toutes des pierres patio. Tu sais comment des pierres patio, ça gèle l'hiver, hein? Il n'y en a pas une qui est égale. Ils sont toutes croches, puis c'est bon. Puis là, on joue, puis je tiens, on envoie ça, puis mon Tiluc, il les arrête, puis il en manque plusieurs. Et là, tout d'un coup, j'ai un élan. Et là, le balancier parfait. Et là, je le vois, là. Et ça pense, tu vois. Un slap shot. Une garnotte. Pour les Européens, un lancer frappé. De toute beauté, le ballon, il est parfait. Patlar! Mais en faisant patlar, le bas du bâton, qui n'est pas en carbone, qui est en bois à cette époque-là, on remonte à une autre époque, frappe la pierre patio. Et la palette brise. Et la palette part. Et j'aimerais dire que la palette suivait la rondelle dans le but, mais la palette a décidé de partir vers les fenêtres de la cuisine. Tu sais, c'est des grandes, grandes fenêtres avec toutes décorées. Et toute la famille est en arrière des fenêtres. Et là, j'ai vu ça partir au ralenti. Pow! Et j'ai vu la palette partir. Mais elle n'est pas partie droite. Elle est partie comme un boomerang. Elle tournait. Et quand elle est arrivée sur la fenêtre, elle n'a pas juste arrêté sur une fenêtre. Elle a frappé l'autre. J'ai frappé deux fenêtres. Deux fenêtres de cassé. Et là, j'ai entendu. Les petits gars! En rentrant dans la maison, Tilo qui dit, « Moi, je te donne un but! Moi, je te donne un but! » Non! Et là, je vois mon père qui s'en vient, « Daniel, c'est toi! » Ça y est, je suis mort, moi, je suis fait. Je suis fini, ma vie est finie. Tu sais, quand tu as 10 ans, là, c'est pas long comme film. Hein? Ça a été comme une vignette. Alors que mon père s'avance pour gérer la situation, ma tante le tasse. Maintenant, ma tante, c'est sa sœur. Puis elle dit, hey, c'est chez nous que ça vient de se passer, c'est moi qui vais régler ça. Fait que mon père s'est reculé. Oh, tableau! Mais en même temps, c'est le même sang qui coule dans ces deux-là, là. Tu comprends? C'est sa sœur. Puis là, je suis pas rassuré, parce que ma tante, c'est une directrice d'école. Puis disons que j'avais eu quelques expériences avec des directrices d'école à ce moment-là, et c'était pas toujours positif. Fait que j'étais pas sûr que j'étais en bonne shape, là. Et bien, moi, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Petit Luc, je t'en ai bu. Tu m'attends? J'ai fait un lancer, puis la lame a cassé, puis ça... Elle dit, ah, c'est un accident. Tu voulais pas briser mes fenêtres? Ben non, ma tante, tu voulais pas briser tes fenêtres, certain. C'est un accident. Faites un lancer, puis elle a brisé les fenêtres. Ah, ben dans ce cas-là, si c'est un accident, c'est pas grave. On va s'en occuper, Daniel. Je vais vivre! Je pensais que c'était la fin. Mais j'ai reçu la grâce. Tu vois, Méphibosheth, c'est ce qui arrive. Méphibosheth, oui, il s'attend à la mort. Il reçoit la grâce. Et ce qui était intéressant, c'est sa réponse à cette grâce qui lui est offerte. Il dit, je suis juste un chien mort. Je suis juste un chien. Pourquoi tu me tends la grâce comme ça? Je suis juste un chien mort. Tu vois, son nom à la naissance n'était pas Méphibosheth. Alors, pour ceux qui étudient la parole, qui veulent être clairs, qui veulent être certains, 1 Chronique 8, 14, 34 est ma source. Mais le nom de Méphibosheth à sa naissance, c'était Mérib-Baal. Et Mérib-Baal veut dire l'exterminateur, l'opposant de Baal. Et quand on lui a donné ce nom-là, on a comme prophétisé sur lui, tu vas être l'exterminateur des faux dieux en Israël. Tu vas être un guerrier, tu vas aller vaincre les fausses influences, les faux dieux en Israël. C'est ce qu'on est en train de lui dire. Mais à 5 ans, quand son père meurt et que son grand-père se suicide, qu'il devient handicapé, on a changé son nom pour Méphibosheth. Et Méphibosheth veut dire « fils de la honte ». On a changé son nom. Et cette identité-là, cette honte-là est tellement ancrée en lui qu'il considère qu'il n'est juste qu'un chien mort. Et il n'est même pas capable de recevoir la grâce du roi. Alors que David lui offre la grâce de Dieu, il n'est pas capable de la recevoir parce que son identité est tellement ancrée, « Je suis le fils de la honte. » Mais voici la restauration du fils de la honte, versets 9 à 13. « Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton Seigneur tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras le sol pour lui, toi, tes fils et tes serviteurs. Tu rentreras les récoltes afin que le fils de ton Seigneur ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton Seigneur, mangera en permanence à ma table. » Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tiba dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à mon serviteur. » David avait dit, « Méphibosheth mangera à ma table comme l'un des fils du roi. » Et Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mica, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait en permanence à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. David le restaure complètement. David restaure Méphibosheth dans toute sa dignité. Il aime Méphibosheth au-delà de son handicap, au-delà de toute son histoire familiale, de tout son arrière-plan familial. Le roi David aime Méphibosheth. Et il lui restaure tout son héritage, tout ce qu'il devait recevoir. Imagine, Méphibosheth va passer de l'autre bord, le lieu de désolation, le lieu sans pain, à maintenant avoir des terres qui vont être cultivées pour lui et il ne manquera plus jamais de pain. Il passe de la crainte à Jérusalem, qui veut dire cité de paix. Parce que l'amour parfait, la paix qui va venir dans la restauration que le roi David lui offre. Il passe du désert, sans famille, à la table du roi, avec la famille du roi complètement adoptée. Il a maintenant sa place. Le fils de la honte retrouve toute sa dignité et sa valeur. Parce que le roi David lui a démontré la grâce de Dieu. Et non seulement à lui, mais à sa descendance. Parce que tu as vu qu'il s'était dit, Méphibosheth avait un fils, Mica. Et David dit, je vais démontrer la grâce pour toi, mais ça va avoir un impact sur toute ta descendance, sur toute ta famille, Méphibosheth. J'aimerais te dire ce matin qu'il y a un roi qui est à ta recherche. Parce que peut-être tu peux très bien t'identifier à l'histoire de Méphibosheth. Peut-être tu peux très bien comprendre les sentiments de l'histoire qui sont là. Peut-être toi aussi, tu as le sentiment, pourquoi moi? C'est pas juste, c'est pas de ma faute, mais je paye le prix. Tu n'as pas choisi la famille dans laquelle tu es venu au monde. Peut-être tu as grandi dans une famille qui a eu des scandales, des tragédies familiales. Peut-être l'absence d'un père ou d'une mère ou des deux. Puis tu t'es trouvé avec les conséquences que cela avait. Peut-être qu'on t'est échappé à l'enfance. Ah, pas littéralement, même si ça peut être le cas. Et aujourd'hui, tu boites. Tu boites pas physiquement, hein, mais tu boites émotionnellement. Parce qu'on t'a échappé. Et aujourd'hui, il y a des situations que tu fais face, puis tu boites, tu as de la misère à y faire face parce que tu tombes dans ta blessure. Tu as de la misère à faire confiance aux gens. Parce que les gens t'ont tellement déçu dans l'enfance, on t'a tellement échappé qu'aujourd'hui, faire confiance pour toi, c'est rendu extrêmement difficile. Peut-être que c'est extrêmement difficile pour toi d'être vulnérable, d'être ouvert à un autre, de te rendre vulnérable, de te rendre en communion avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'on t'a brisé, on t'a fait mal à la même place à tellement de fois que là, tu veux te fermer puis tu veux plus être en relation d'être vulnérable. Peut-être que tu vois toujours le négatif dans toutes les situations parce que dans ton enfant, peut-être à cause de l'alcool, peut-être à cause de toxicomanie, peut-être à cause des situations de ta famille, constamment, l'histoire finissait mal. Et aujourd'hui, tu boites. Tu boites émotionnellement. Parce qu'on t'a échappé comme enfant. Peut-être que tu en as vécu le jugement puis la moquerie à cause de cela. Mais chose certaine, on boit tous. À cause de la chute d'Adam, on a tous été échappés. Et on boit tous des deux pieds. Et pour moi, les deux pieds, c'est un pied le désir, l'autre pied, c'est l'action. Et on en souffre tous, on boit tous. On désire des choses, mais on fait autre chose. On désire pas certaines choses, puis on fait ces choses-là. Je sais que je suis pas tout seul comme ça. L'apôtre Paul l'a vécu comme ceci dans Romains 7. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, c'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien, mais le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. J'aime Dieu, mais dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Paul est en train de nous dire, je boite. Les choses que je veux faire, je les fais pas. Les choses que je veux pas faire, c'est celles que je fais. Je boite. Parce qu'on m'a échappé. On m'a échappé. Et on en subit les conséquences. On en subit les effets. Et peut-être que le résultat dans ta vie, c'est de te retrouver à l'eau de bord. De te retrouver dans un lieu sans pain, sans nourriture, où c'est la famine. Peut-être comme l'autre expression, d'être dans un lieu de prison sans promesse. Un lieu où tu es pris dans une captivité, là où tu es rendu. Dans la désolation, dans tes liens familiaux, dans tes relations, dans ta vie, dans ton travail, dans tes études, il y a quelque chose en dedans de toi qui te dit, c'est pas ça que je voulais pour ma vie. Mais on m'a échappé. C'est pas de ma faute. J'ai pas choisi ce que j'ai vécu. T'es pris dans des dépendances, puis tu boites parce que tu veux arrêter tes dépendances. Semaine après semaine, tu te prends une décision, OK, là j'arrête, puis tu rechutes encore, puis tu boites. Parce que tes douleurs sont tellement grandes en toi que tu ne sais pas comment les engourdir autrement. Tu vis dans la peur, tu vis dans l'angoisse constante. Tu es dans la peur de mourir. Plein de gens sont pris avec la peur de mourir, mais j'aimerais vous dire qu'il y a plein de gens qui sont pris avec la peur de vivre. Ils sont dans l'anxiété, ils sont dans l'angoisse. Ils ont peur même de la vie. Puis il y a un cri en dedans de nous qui dit, c'est pas juste, c'est pas de ma faute. Et plus encore, la honte t'envahit. Tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on te fait. Et tu en viens à croire, je suis juste un chien mort. Je ne vaux pas la peine. Je ne mérite rien. Tu vois, la différence entre la honte et la culpabilité, c'est que la culpabilité, c'est que j'ai commis une erreur, j'ai fait une erreur. La honte, c'est de croire que je suis une erreur. On est tous coupables. On a tous commis des erreurs, mais c'est pas vrai qu'on ait des erreurs. C'est pas vrai qu'on ait des erreurs. Mais on te l'a tellement dit que ça s'est ancré en toi. C'est devenu ton identité. Je ne vaux rien. Je suis pas capable, je lis la parole, puis il n'y a rien qui rentre. Je suis pas capable de croire que quelqu'un peut m'aimer. Je suis pas capable de croire dans les promesses de Dieu. J'ai eu quelqu'un, j'ai dit, tu crois-tu en Dieu? Elle dit oui. Crois-tu dans la parole de Dieu? Oui. Tu lis la parole de Dieu? Oui. Qu'est-ce que tu fais de toutes les promesses? Ah, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour les autres. incapable de croire que Dieu pouvait être assez grand et assez l'aimer pour que ce soit vrai pour elle aussi. Tellement elle avait vécu dans la honte, tellement elle avait vécu dans l'image qu'elle était une erreur. Et ça devient tellement dur, c'est tellement ancré qu'on a de la difficulté à recevoir la grâce de Dieu, même quand elle nous est offerte. On a de la difficulté à croire que quelqu'un peut nous aimer parce qu'on a été tellement meurtri. Comment est-ce que tu peux vraiment m'aimer? C'est pas vrai. Je te crois pas. Tellement on est frappé. Mais le roi des rois, il est à ta recherche ce matin. Il te cherche. Et il veut déverser sa grâce sur toi. Luc 19, verset 10 dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est ça, c'est ce que le Fils de Dieu veut faire. C'est ce que le roi des rois veut faire. Il veut déverser sa grâce sur toi. Peut-être que tu as peur de venir devant lui. Peut-être que tu as peur d'être châtié, tu as peur d'être condamné, mais c'est faux. Il veut déverser sa grâce sur ta vie. 1 Jean 3, 1 dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Point d'exclamation. « Et nous le sommes. » Ah, pas le dernier bout. « Voyez quel amour, et nous le sommes, des enfants de Dieu. Il t'aime au-delà de tes fautes. Il t'aime au-delà de tes handicaps. Il t'aime au-delà de ce que tu es maintenant. » Parce qu'il ne voit pas ce que tu es maintenant, il voit ce que tu peux devenir en lui. Il voit toute ta valeur. Et il veut déverser sa grâce sur toi. Tu dis, « Oui, mais ce n'est pas ma place à la table du roi. As-tu vu de quoi j'ai l'air? » Je ne fit pas. Ce n'est pas ma place. Mais c'est faux. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le roi qui décide qui va être à sa table. C'est pas toi. C'est le roi qui décide. Et le roi des rois a décidé qu'il voulait que tu sois à sa table. Il a payé le prix pour que tu sois à sa table. Il a décidé qu'il en serait ainsi, que tu avais l'opportunité de venir à sa table. Il a décidé de t'inviter, de te faire une place, et non seulement de te faire une place à sa table, mais de t'adopter dans sa famille. Pour que tu sois un enfant de Dieu, complètement adopté. Éphésiens 2, verset 4 à 9, le dit comme ceci. « Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Le roi des rois a choisi de déverser sa grâce sur toi, pour que tu sois un enfant de Dieu pleinement adopté. Je mérite le lieu de désolation, je mérite le lieu de la peur, de la famine, mais le roi des rois reste en tout mon héritage, et ce pourquoi j'ai été créé. C'est ça son désir, de restaurer toute mon identité, que je suis une créature merveilleuse, comme le dit le psaume 139, que je suis un enfant du roi, que je suis un enfant de Dieu. Il veut restaurer toute ma dignité, et enlever toute la honte qui peut être sur moi pour me restaurer pleinement dans sa présence. Il veut restaurer pour que j'aie la vie en abondance. Il veut restaurer pour que j'aie la vie éternelle. Le roi des rois est à ta recherche ce matin pour déverser sa grâce sur toi. Mais pas juste sur toi. Il veut la déverser sur ta descendance. C'est pas juste toi qui veux sauver. C'est pas juste toi qui veux transformer. Comme pour Mephibosheth, ça a affecté la vie de son fils Mika. La transformation que Dieu va faire dans ta vie va avoir un impact sur la vie de tes enfants. Afin que tes enfants n'aient pas l'enfance que tu as eue. Et que même s'ils sont grands, ils peuvent vivre autre chose que peut-être ce que tu as vécu. Il n'est jamais trop tard pour qu'une descendance soit transformée. Parce que le roi des rois veut déverser sa grâce sur toi et déverser sa grâce sur ta famille. Mephibosheth a vécu dans la honte, dans la peur, dans la désolation. Et il a vécu dans la moquerie, puis il a vécu dans le jugement. Il a vécu avec le « pourquoi moi? » C'est pas juste, c'est pas de ma faute. C'est moi qui en souffre les conséquences, c'est moi qui paye le prix. Mais un jour, il y a un serviteur du roi Tiba qui est venu lui dire que le roi l'appelait. Pas pour le détruire, mais pour qu'il puisse déverser la grâce de Dieu sur lui et pour sa restauration. Et j'aimerais te dire que c'est encore vrai ce matin pour chacun de nous. Le roi des rois, Jésus-Christ, nous cherche. Il est encore à notre recherche. Et il est encore à notre recherche pour nous sauver, pour nous restaurer, rétablir notre dignité. Peut-être que comme Méphibosheth, tu vis dans la peur, tu vis dans l'anxiété, tu vis dans la honte. Peut-être que comme Méphibosheth, t'es pris dans les conséquences de la famille dans laquelle tu as grandi, la famille que tu n'as pas choisie. Peut-être qu'il y a eu des tragédies familiales qui t'ont frappé et qui t'ont laissé des marques. Peut-être que c'était un père qui était absent, ou un père qui est décédé, ou une mère qui était absente, ou peut-être l'absence des deux, ou peut-être l'absence à cause d'une dépendance. Ou physiquement, il est présent, il est là, mais émotionnellement, il est complètement détaché. Peut-être que tu as vécu, comme Méphibosheth, des blessures parce qu'on t'a échappé. Tu étais juste un enfant. Tu y étais pour rien, mais on t'a échappé. Puis aujourd'hui, tu boites. Aujourd'hui, tu payes le prix. Aujourd'hui, tu vis encore les conséquences de cet accident, de la façon qu'on t'a traité, de la façon qu'on t'a élevé, de la façon qu'on t'a échappé. Et tu vis dans un lieu de désolation, dans la honte. Honte de ce que tu as vécu, honte de ce que tu es devenu. La honte s'est ancrée en toi. À tel point que tu as l'impression que tu ne mérites rien de bon. Ou peut-être que comme Méphibosheth, tu as déjà été dans la présence du roi. Parce que de 0 à 5 ans, Méphibosheth est dans le palais. Et là, le roi David le ramène au palais. Et peut-être tu as grandi à l'église. Puis ce matin, pour une raison que tu ne sais pas, tu es venu à l'église. Puis peut-être ça fait longtemps que tu es loin de l'église. Ce que tu ne réalises pas, c'est que le roi te cherche ce matin. Il est à ta recherche ce matin. Tu dis, mais je ne le mérite pas, je ne le mérite pas. Si tu savais tout ce que j'ai fait, je ne le mérite pas. La grâce, on ne la mérite jamais. La grâce n'est pas le fruit de la justice de Dieu. La grâce est le fruit de l'amour de Dieu. On ne mérite pas sa grâce. Mais il nous l'offre. Il nous l'offre en abondance. Il nous offre une grâce infinie à chacun de nous. Jésus te dit aujourd'hui, ne crains pas. Ne crains pas. Il veut manifester sa grâce sur toi. Et il t'invite à sa table. Même si tu as l'impression que ce n'est pas ta place, c'est pas toi qui décides. C'est le roi qui décide. Et il t'invite à sa table ce matin. Il veut que tu prennes place dans la famille de Dieu. Il veut que tu sois adopté. Il t'invite à recevoir cette grâce-là et son pardon. Il veut restaurer ta vie pour que tu puisses passer de la honte à la table du roi. Passer de la honte à la table du roi. Alors que les musiciens viennent se joindre à moi, laisse-moi te lire un dernier passage. Parce qu'on est dans l'Ancien Testament. Mais voici ce qui prend place dans le Nouveau Testament. Après que Jésus est crucifié, après qu'il est ressuscité, après le jour de la Pentecôte, voici ce qui arrive dans Actes 3, versets 2 à 8. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les observait, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Et d'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, en sautant et en louant Dieu. Oh, si t'es boiteux ce matin, on a une espérance. Il veut qu'on puisse marcher, de se lever, de marcher, de louer Dieu en sautant et en dansant pour lui. Alors, l'œuvre complète de la croix et la résurrection de Jésus. Est-ce qu'on peut courber nos têtes ensemble? Tu es ici ce matin, tu comprends très bien. Tu comprends très bien l'histoire de Méphibosheth. On t'a échappé. On t'a échappé quand tu étais petit. Aujourd'hui, tu payes le prix encore. Tu t'en payes les conséquences. Aujourd'hui, tu sais ce que c'est, pour, comme c'était pour Méphibosheth, de dire « j'ai pas choisi la famille dans laquelle j'ai grandi. » Aujourd'hui, je vis les conséquences de cela. Aujourd'hui, tu comprends très bien ce que ça veut dire de vivre de l'autre de bord. Dans le lieu de désolation, de famine, où tu as l'impression que les promesses ne fonctionnent pas pour toi, qu'il n'y a rien qui fonctionne. L'impression que tu es juste un boiteux dans ta marche chrétienne, qu'il n'y a aucun espoir. Le roi t'appelle ce matin. Puis il dit, viens à ma table. Viens à ma table. J'ai tout payé. Viens à ma table. Je vais t'adopter ce matin. Je vais te donner une place. Il y en a, vous êtes ici, tu as grandi dans les voies de Dieu, mais tu es loin du roi ce matin. Ah, tu es loin des choses du roi, tu le sais. Ton corps est peut-être ici à toutes les semaines, mais la semaine, tu es loin de Dieu. Et le roi dit, viens. Ouais, mais j'ai peur de ce qu'il va me faire. Non. Il dit, ne crains pas. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Il veut t'offrir son pardon. Si c'est le sentiment qui t'habite ce matin, j'aimerais vraiment prier pour toi. Et je te demanderais simplement, là où tu es, juste de lever ta main et dire, j'aimerais ça que tu pries pour moi, pasteur. Je comprends mes fibochets. Je le comprends. Je comprends ce que c'est que de boiter. Tu veux certaines choses, puis tu fais d'autres choses. J'aimerais ça que tu pries pour moi ce matin. Il y a des mains partout en ce lieu qui se lèvent. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Je te gênerai pas, je t'humilierai pas, je te ferai pas venir en avant. Juste que tu lèves ta main, là, je veux juste savoir pour qui je vais prier. Seigneur, je veux te prier pour chaque main qui se sont levées. Oh, viens les rencontrer, Jésus. Parce que tu dis dans ta parole que lorsqu'on s'approche de toi, tu t'approches de nous. Approche-toi d'eux. Je te prie pour ceux qui n'ont pas levé leurs mains. Parce qu'ils n'ont même pas l'impression qu'ils sont assez dignes pour oser lever leurs mains ce matin. Oh, je te prie, Seigneur, que tu viennes leur montrer ta grâce, ton amour, ton pardon, ta restauration, que tu leur fais une place à ta table, à la table du roi des rois, que nous sommes pleinement adoptés. Confirme par ton Saint-Esprit dans chaque cœur qui sont ici ce matin que nous sommes tes enfants, que nous t'appartenons, que ta grâce est infinie pour chacun de nous, que nous quittons la honte pour s'asseoir à la table du roi. En ton saint précieux nom, Jésus. Et tout le monde en dit amen et amen et amen et amen. Si tu as levé ta main, je t'invite à la sortie, à aller à l'espace bienvenue. Il y a des gens qui sont là pour prier avec toi puis prendre un temps avec toi si tu as des questions. Mais c'est pas fini. Non, série classique. Trois conclusions. Classique. Voici la dernière idée, la dernière pensée pour ce matin. Si Méphibosheth a pu venir à la table du roi, c'est parce qu'un serviteur qui est allé lui dire que le roi l'appelait. Et notre appel pour ceux de nous qui connaissons qui est Jésus, pour ceux qui sont habitués d'être en présence de Dieu, qui veulent être ses serviteurs, Jésus nous appelle, le roi des rois nous appelle d'être ses serviteurs, d'être ses tibas et d'aller chercher ceux qui sont au loin, d'aller chercher ceux qui souffrent, d'aller chercher ceux qui sont handicapés, d'aller chercher ceux qui sont boiteux. Pense pas qu'ils sont trop loin, pense pas qu'ils valent pas la peine, pense pas qu'ils sont trop maganés, pense pas qu'ils fitent pas dans l'église. Le roi des rois nous appelle à aller chercher ceux qui souffrent et de leur dire, le roi veut te pardonner, il veut déverser sa grâce sur toi. C'est l'appel sur chacune de nos vies ce matin, d'être des petits bas, de ne pas penser que Dieu ne peut pas le faire, qu'il n'y a pas des cas trop loin, trop durs, trop compliqués pour notre Dieu. Il veut aller sauver et faire la place à la table du roi. Amen. Parce que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. C'est par sa grâce. Et j'aimerais vous inviter à vous lever pour qu'on puisse le déclarer ce matin.